Bonjour, merci d'être présent pour assister donc à cette conférence dont le thème est consacré au VTC, le véhicule de tourisme avec chauffeur. En tout cas, il n'est pas consacré au VTC. La thématique est donc de regarder un petit peu si le statut de VTC qui a été créé il y a seulement quelques années, 3 ans, si ma mémoire est bonne, est aujourd'hui compatible avec l'activité des taxis. Et quels sont identifiés, quels sont les problèmes éventuels qui existent justement dans cette cohabitation qui normalement devrait être harmonieuse, mais qui aujourd'hui ne l'est pas. Un petit rappel très rapide, je sais que vous êtes tous tout à fait sensibles à ça, mais le législateur a créé le statut de véhicule de tourisme. Et on verra, on posera la question de savoir si peut-on parler d'un statut, est-ce véritablement un statut, pour desserrer le carcan d'un secteur très réglementé en matière de transport de personnes, pour l'idée initiale était de mieux répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs, et notamment en matière de transport de tourisme. Les taxis ont eu des concurrences déloyales dès le début, et ont obtenu des pouvoirs publics, notamment un certain nombre de dispositions, telles que la taille des véhicules, de façon à éviter des débordements incompatibles avec une concurrence harmonieuse qui était l'objectif du législateur, en tout cas affirmé par lui lorsqu'il a créé ce statut. Je vais laisser passer la petite page de pub et reprendre après de façon à ce que vous ne soyez pas perturbés. Voilà. En parallèle, c'est un élément qu'il y a lieu aussi de prendre en compte, c'est qu'un nombre non négligeable de taxis, lorsque le statut est sorti, se sont inscrits également comme VTC. On eut également une activité de VTC. Je ne fais que rappeler des faits, je ne porte aucun jugement, mais pour bien cadrer les éléments qui vont nous amener à débattre. Les VTC, quant à eux, au fil du temps, se sont organisés en fédération professionnelle, et une rencontre a eu lieu d'ailleurs à l'initiative de cette fédération, avec les différentes fédérations de taxi, de façon à examiner les points d'accroche qui pouvaient exister et quel était le chemin qui pouvait se faire pour améliorer les rapports entre les entreprises exploitant des VTC et les taxis. À ce jour, et après 3 ans de cohabitation, quel bilan tirer? C'est un petit peu le thème de cette conférence. Quel bilan tirer? On va essayer de véritablement tout balayer, et j'ai préparé un petit canevas qui nous permettra, je l'espère, d'aborder tous les thèmes. Je vais donc vous présenter les participants à cette conférence, que vous connaissez pour la plupart, bien évidemment. Je les présente, comme hier, par ordre alphabétique de leur organisation professionnelle. Donc aujourd'hui, le premier cité sera M. Gérard Gabet, président de la FFTP, à la tribune. Monsieur Jean-Claude Richard, qui est président, lui, de la FNAT. La FNAT est également représentée au premier rang par Monsieur Jean-Michel Robert, qui est président de l'UDTP, Union de Défense Taxi Parisien, qui est un syndicat adhérent de la FNAT. Pour la FNDT, nous avons Monsieur Didier Ogrin, président, et en salle, au premier rang, Monsieur Pascal Leblanc, qui est le trésorier, donc, de la FNDT. Pour la FNTI, M. Pascal Wilder, secrétaire général donc de la Fédération nationale des taxis indépendants. Nous avons également à la tribune, en tant que directeur délégué, M. Frédéric Renaudot, au nom de l'Union nationale des industries du taxi. Puis M. Alain Griset, qui est président de l'Union nationale des taxis. Et enfin, M. Nicolas Rousseau, qui est le patron d'une entreprise de VTC, ViaCab. Et nous avons cherché à avoir plusieurs intervenants représentant le VTC pour que véritablement tous les éléments puissent s'exprimer, qu'il y ait un dialogue ou des confrontations d'idées aussi riches que possible, de façon à rendre cette conférence, je dirais, aussi dynamique et pertinente que possible. Malheureusement, seul monsieur, enfin, malheureusement, ça, je ne dis pas qu'il est malheureux que monsieur Rousseau ait répondu positivement. Je le remercie d'avoir accepté de participer, mais nous avions également d'autres intervenants, et notamment, nous avons sollicité la Fédération française des exploitations de véhicules du tourisme avec chauffeur, qui, pour des raisons de calendrier, d'engagement déjà pris, n'a pu être parmi nous aujourd'hui. Mais je vous ferai passer au fil du débat, en fonction des thèmes qui seront abordés, un certain nombre de messages qu'ils nous ont autorisés et même demandés d'exprimer. Donc, M. Rousseau ne représente que lui-même, ce qui est déjà beaucoup, mais il n'engage aucune organisation professionnelle, et simplement, en préparant cette conférence avec lui estime qu'il est un petit peu le porte-parole de ses clients. Il a des visions qui sont les siennes, et donc nous avons trouvé intéressant effectivement de pouvoir échanger ensemble à ce niveau-là. Je refais les mêmes petites précautions d'usage, un rappel d'usage pour que cette conférence se déroule du mieux possible. En considération du nombre d'intervenants, donc je demande à tous d'être aussi synthétiques que possible dans l'expression. D'autre part, pour la bonne forme, c'est valable dans tout débat, mais ça l'est d'autant plus dans le débat, dans un sujet comme celui-ci, qui est un sujet très sensible et auquel vous êtes très sensible, parce que confronté dans votre quotidien et confronté dans vos exploitations respectives, néanmoins, tout doit pouvoir être dit. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais ça doit se faire, bien évidemment, de façon mesurée et en respectant la pensée de l'autre. C'est comme ça qu'on fait avancer des choses. Ça s'est très bien passé hier dans le cadre de la conférence sur le transport du malade assis. Il y avait des représentants de la CNAM dont le rôle n'était pas vraiment évident a priori. Et finalement, on est arrivé à un certain nombre de constats, et voire même d'engagements pour l'avenir, qui, grâce au salon du taxi, je fais un petit peu de publicité, ont permis justement de faire peut-être accélérer dans le futur des contacts qui, on l'espère tous, permettront d'avancer sur les problématiques en cours. Donc, il pourra y avoir des questions dans la salle, mais à la fin, on va laisser véritablement, vous avez là des représentants, comme on l'indique, qui vous représentent, qui connaissent parfaitement bien les dossiers, qui ont des points de vue tout à fait, forgés, avec force argument, et qui vous représentent auprès des pouvoirs publics. Donc il est intéressant pour vous, bien évidemment, chacun avec leur sensibilité, de pouvoir s'exprimer. Et à la fin, dans un dernier petit quart d'heure, on pourra faire quelques questions, effectivement, qui viennent de la salle. La première question, parce qu'on parle de VTC, etc., et c'est, comme c'est un sujet sensible, comme tout sujet sensible, vous savez, il y a des tas de choses qui, peuvent se faire jour, des rumeurs, des contre-vérités, etc. Et c'est vrai que c'est un point qui est quand même assez particulier, c'est le VTC. Bon, le statut des taxis, on le connaît. C'est un statut qui est hyper réglementé, par la voie publique. Et le statut de VTC, qui n'a que 3 ans, lui, il est réglementé, mais bon, il est réglementé d'une certaine façon. Donc, je serais intéressé qu'il y ait un rappel. Qu'on puisse rappeler quel est le statut de VTC, quel est le statut juridique, et à quoi ça correspond. Au hasard, monsieur Richard, qui est en face de moi, qu'est-ce que vous nous avez là-dessus? Et ensuite, bien évidemment, je passerai la parole à chacun d'entre vous. C'est un micro qui marche.
Merci. Mais écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais dire une formule que j'ai trouvée ce matin. C'est que j'ai quand même l'impression que le VTC, c'est l'enfant illégitime du protocole.
Vous entendez pas? Attendez, je vais vous passer mon micro.
Oui. Alors, j'ai l'impression que le VTC, je répète, c'est l'enfant illégitime du protocole. Car quand nous avons signé le protocole, presque toutes les fédérations, il était prévu un article. Il est toujours prévu un article dans le protocole qui prévoit une concurrence loyale. Il y avait les petites remises, les grandes remises, les lotis. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, lorsqu'on a discuté, négocié et signé le protocole, il n'était question des VTC. Absolument à aucun moment. Or, un an après, M. Novelli, qui était à l'époque ministre de l'artisanat, du tourisme et peut-être d'autres choses, nous sort les VTC, voter décret d'application dans la foulée. Une profession totalement déréglementée, parallèle à notre profession, et une profession sans règles. Nous ne pouvons pas, bien entendu, accepter une profession déréglementée, totalement parallèle à la nôtre, sans encadrement. Le gouvernement actuel nous l'a bien dit, il ne supprimera pas les VTC, nous avons pris acte, par contre, ce que nous voulons, et là nous serons fermes, nous voulons un encadrement absolu des VTC, de façon à ce que ce ne soit plus une concurrence déloyale, mais éventuellement une concurrence presque loyale. Je reviendrai après sur le reste.
Je vous remercie. Moi, je vais faire un petit peu de saut de mouton. Monsieur Gabet, je vous passe la parole, après je viendrai à Monsieur Aubrel. Comme ça, chacun peut préparer ce qu'il va vouloir dire.
Merci. Donc, effectivement, en juillet 2009, vous l'avez rappelé, la loi sur le tourisme a mis, effectivement, le véhicule de tourisme avec chauffeur, et un décret d'application qui a suivi a permis de lancer ce type de véhicule dans un secteur économique. Alors, force a été de l'ancien gouvernement aussi de signaler que, dans l'esprit du législateur, ce véhicule de tourisme avec chauffeur devait remplacer la grande remise. Je parle dans le secteur d'activité économique. Et non pas faire être présent sur la voie publique en attente de clientèle, et non pas faire du transport de personnes d'un point A à un point B, mais se consacrer à son activité, c'est-à-dire le tourisme. Donc, effectivement, depuis 2010, que la mise en application du décret, nous avons cherché à obtenir de la part de ce secteur d'activité économique une réglementation plus encadrée, puisque effectivement elle est très permissive, cette réglementation, au jour d'aujourd'hui. Il semble qu'à ce jour, nous ayons été entendus, qu'une évolution législative soit en cours, nous l'espérons, pour que effectivement on puisse remettre le véhicule de tourisme avec chauffeur sur avec une équité par rapport aux autres acteurs économiques, rappelons-le, le taxi, les véhicules légers de transport public, les petites remises, transport de personnes à moto. Alors à ce jour, effectivement, on a eu des promesses, et comme je l'avais fait remarquer, il y avait plusieurs incongruités. Imaginez un exemple que j'avais cité très clairement, un conducteur, c'est pas péjoratif ce que je dis, un conducteur de camion poubelle, donc dans la loi, un chauffeur professionnel qui a exercé pendant plus de 12 mois, a le droit d'obtenir automatiquement sa carte professionnelle de conducteur de VTC. Alors, si cette personne n'est pas intéressée, rien ne l'oblige à connaître le monde du transport de moins de 10 personnes, et donc quelle sera l'activité de cette personne au volant d'un véhicule de tourisme avec chauffeur, ne connaissant pas les règles, les us et coutumes du transport de moins de 10 personnes. Alors là, la question se pose. Donc, nous, effectivement, ce que nous demandons déjà, c'est que il n'y ait plus d'équivalence, que ce soit par un chauffeur professionnel de transport de personnes ou autre, qu'il y ait un examen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous avez une entreprise de véhicules légers de transport public, sous la loi d'orientation du transport intérieur, vous devez avoir une capacité de transport de voyageurs qui est difficile à obtenir. Lorsque nous sommes, nous, taxis, nous passons le CCPCT, le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, qui est difficile à obtenir. Voilà. Donc ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une équité. Ensuite, que chacun respecte son secteur d'activité économique. En 2009, nous avions de mémoire 413 autorisations d'exploitation de grande remise. Aujourd'hui, nous en sommes à 4093, je l'ai maintenant, autorisation d'exploitation dans les véhicules de tourisme avec chauffeur. Vous voyez, entre 2010 et 2013, le nombre d'autorisations d'exploitation qui a augmenté exponentiellement. Et derrière, un nombre de véhicules non référencés, non répertoriés. On estime environ le parc à 10 000 véhicules environ. En plus, cette flotte peut se déplacer librement d'un département à un autre, pour un événementiel, et de ce fait va venir concurrencer la flotte des taxis déjà en place dans un département précis. Alors évidemment, si le véhicule de tourisme avec chauffeur respecte les règles, c'est-à-dire n'est pas sur la voie publique en attente de clientèle, s'adresse à un public de tourisme, eh bien là, je pense qu'il est dans un secteur d'activité économique comme l'était la grande remise avant, complémentaire du taxi, et ça, nous pouvons l'accepter. Maintenant, s'il vient directement concurrencer le taxi et faire le travail du taxi, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Alors je pense très clairement, pour faire simple, que le gouvernement actuel l'a bien compris. Il semble qu'une évolution soit en cours, que les travaux effectués, les préparations depuis maintenant 2 ans vont peut-être porter leurs fruits, je le souhaite. Nous ne souhaitons pas actuellement la mort des VTC, soyons clairs. Nous souhaitons simplement que ce secteur d'activité VTC retourne dans le secteur d'activité économique de la grande remise. Simplement.
D'accord. Merci. Monsieur Aubrel. On fait un petit tour, comment dirais-je, d'horizon synthétique, et après, bien sûr, on rentrera dans le détail. J'ai préparé un certain nombre de questions pour chacun d'entre vous. Voilà.
Mon collègue, monsieur Gavet, bon, on a dit beaucoup. Il n'y a plus grand-chose à rajouter. Si ce n'est que, bon, on constate aujourd'hui, c'est que le protocole de 2008, les VTC découlent directement de ça, et on revient ni plus ni moins au rapport Attali qui préconisait le doublement du parc de taxi. Donc, il est vrai que mon collègue a raison d'insister sur le principe de la qualification. Le métier de transport de personnes est un métier à part entière. Il doit bénéficier d'une formation. On met en vie, si je puis dire, nos passagers quand on les transporte. On doit les transporter en toute sécurité. Or, au jour d'aujourd'hui, est-il normal qu'un conducteur, c'est pas une attaque que je fais, mais qu'un conducteur de bonne ordure puisse véhiculer des personnes sans la moindre autre formation. Voilà.
D'accord. Monsieur Griset, je repasse de l'autre côté de la tribune avant de revenir sur monsieur Wilder après.
Bien, bonjour messieurs, dames. Vous avez parlé, monsieur, de bilan et de statut. Statut, naturellement, les personnes qui veulent exploiter des VTC ont les statuts classiques de toute entreprise, hein, entreprise individuelle ou société. Et le bilan, ben, il est très clair que aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'objectif initial, qui était de faire que ces véhicules transportent des touristes, est aujourd'hui atteint. Puisqu'il est évident que ces véhicules transportent tout type de clientèle, peut-être des touristes, mais aussi beaucoup d'autres clients, et en particulier une partie des clients des taxis. C'est évident que la création de ces VTC découle totalement du rapport Attali, de sa non-mise en place et, entre guillemets, de la vengeance politique de cette non-mise en place, et que ça, au bout du compte, c'est une délibéralisation totale de l'économie, puisque les règles applicables à ces véhicules sont pas celles applicables. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises qu'on considérait chez nous que c'était un peu les seuils prime des taxis, comme aux États-Unis, dérégulation totale de la profession. Et donc le bilan, on l'a dit, hein, Gérard Gabé, on est passé de 500, enfin un peu moins de 500 grandes remises à aujourd'hui plus de 4000 entreprises, mais au bout du compte, qui font plus de 10 000 véhicules, donc on a multiplié par plus de 20 le nombre de véhicules, ce qui montre que l'accès à cette profession a été naturellement très très simplifié, et qu'à l'origine, avant l'origine de ces VTC, il y avait déjà ce type de véhicule permettant de répondre à une demande particulière, qui était les grandes remises, qui ont existé pendant des dizaines d'années sans qu'il y ait de conflit particulier, qui répondait à une demande de clientèle. Et naturellement, il était, de mon point de vue, de notre point de vue, pas utile d'avoir cette nouvelle catégorie de véhicules, qui plus qu'un statut est une catégorie de véhicules, qui est venue effectivement totalement déréglementer la profession de transport de personnes.
Merci. Monsieur Wilder.
Oui, bonjour. Oui, ben, tous mes collègues ont dit à peu près ce qu'il y avait à dire pour l'instant, en tout cas. Mais je pense qu'il y a une chose importante, c'est pour qu'on arrive à avoir une vraie concurrence loyale, il faut qu'il y ait des contrôles. Et aujourd'hui, les contrôles, ce n'est qu'une plaisanterie. On verra pour la suite après.
Très bien. Monsieur Renaudot, délégué d'Union nationale des industries du taxi.
Oui, en effet, le VTC est un mode de transport qui a généré beaucoup trop d'abus. D'une part, le racolage, la circulation dans les couloirs de bus, le stationnement en attente de clientèle. On a créé véritablement un mode de transport qui aujourd'hui bon, est concurrent du taxi, ça pourquoi pas, mais surtout qui est aujourd'hui beaucoup moins sûr, beaucoup moins surveillé, beaucoup moins réglementé que le taxi. Et à ce sujet, je pense bien évidemment à nos entreprises, mais je pense aussi au public. Je pense au grand public qui prend aussi davantage de risques en montant à bord de ces véhicules et qui n'a pas les mêmes garanties qu'à bord d'un taxi. Et à ce sujet, je trouve aussi regrettable que les transports sur réservation préalable, qu'il s'agisse des motos, qu'il s'agisse des VTC, en soient toujours réduits finalement à singer ou à plagier le taxi et à entretenir souvent le flou et la confusion par rapport au taxi. Donc je crois qu'il est vraiment indispensable effectivement qu'on crée les conditions d'une concurrence loyale entre ces différents moyens de transport. À ce sujet, je voudrais rappeler que la principale fédération d'entreprises de taxi en France, que je représente, l'UNIT, est en procès avec un certain nombre de sociétés de VTC et notamment la société ViaCab pour l'utilisation abusive des mots taxi pour plusieurs des services qu'elle offre. Donc voilà, nous sommes très engagés dans le respect de la réglementation taxi et la défense des intérêts de la réglementation et également du client.
D'accord. Bon, je ne le savais pas, mais j'ai bien fait pour vous mettre l'un à côté de l'autre. Non, mais bon, il peut y avoir des contentieux juridiques. Le but, c'est de faire avancer effectivement le sujet. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Rousseau, qui est donc, lui, exploitant d'une entreprise qui s'appelle ViaCab, donc du VTC. Ce que je relève de tout ce qui a été dit, c'est que finalement, j'ai entendu les mots dérégulation suite au rapport Attali, qui est effectivement situé dans un courant de pensée lié un petit peu à une libéralisation d'un certain nombre de règles. J'ai entendu à force reprise le terme de concurrence déloyale, et donc ce que je comprends, c'est que d'un côté, il y a des gens qui, ce que je dis n'engage que moi, hein, mais c'est pour essayer de cadrer et de permettre à M. Rousseau de répondre de façon structurée. D'un côté, il y a des gens qui ont des réglementations, qu'ils doivent appliquer, etc. Et de l'autre, finalement, on a permis à d'autres exploitants, entrepreneurs, de travailler dans des conditions qui sont beaucoup moins rigides et qui, effectivement, entraînent une réaction de la part des premiers. Voilà. Qu'est-ce que, de votre vécu, de votre expérience, qu'est-ce que vous avez à préciser à ce niveau-là?
Bonjour. Il y a eu beaucoup de points qui ont été abordés, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre sur chacun d'entre eux.
Très près du micro, comme ça. Vous le collez sur le menton, comme ça, c'est. Vous m'entendez mieux?
Ok. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tous les points qui ont été abordés, mais je vais essayer de répondre au maximum de points très rapidement. Vous avez effectivement rappelé que l'Union des taxis a intenté deux procès contre ma société, mais vous avez omis de préciser que vous les avez tous les deux perdus et que vous avez été condamnés, et notamment à me donner des dommages et intérêts.
C'est en appel.
Non, vous avez perdu la première instance et la procédure d'appel. Vous êtes mal informé.
Vous répondrez après. Enfin, voilà, on va y aller de façon synthétique.
Donc, en fait, son témoignage n'avait d'autre but que de mettre en doute notre légitimité dans cette profession. Alors, je ne suis pas responsable de la création de cette activité. Je ne suis un acteur économique comme tant d'autres qui a choisi de s'y positionner. Pourquoi ? Vous êtes dans une profession trop réglementée et par voie de conséquence fermée. Vous n'autorisez pas la mobilité professionnelle de gens qui auraient besoin d'accéder à des métiers, et en l'occurrence celui de chauffeur. Le point commun qui existe entre le VTC et le taxi, c'est que nous sommes tous des acteurs du transport de personnes. Alors effectivement, la VTC a été créée pour le tourisme, les touristes. Comment identifier quelqu'un dans la rue ou quelqu'un qui vous appelle par téléphone de lui demander son pedigree? Est-ce que vous êtes touriste ou est-ce que vous êtes client particulier des taxis? Si vous êtes client particulier des taxis, je ne peux pas vous prendre, vous êtes chasse gardée des taxis. Allez voir ailleurs. Non. Donc on ne peut pas refuser cette clientèle. Là, ici, je suis aujourd'hui un des, si ce n'est le seul, mais d'ailleurs, représentant VTC. Comme l'a rappelé Bruno tout à l'heure, en tant que porte-parole de mes clients. Nicolas Rousseau, il a démarré son activité professionnelle en 2005 par la création d'une radio-taxi qui s'appelle SOS Taxi. Comme les taxis G7 à une couverture nationale. Et force est de constater que pendant 5 ans d'activité, sur les 300 000 clients que nous avons eus, alors évidemment c'est pas le niveau G7, mais enfin quand on est attaqué par G7 à tout bout de champ et qu'on perd de la trésorerie inutile et bêtement en procès chronophage, on fait avec la trésorerie que l'on a. Donc sur les 300 000 clients que nous avons servis en l'espace de 5 ans, il y a un point commun qui est revenu toujours. La qualité de service. Nos clients taxis se sont plaints que nos taxis avaient une très mauvaise qualité de service. Et c'est pas Nicolas Rousseau ou le représentant VTC qui nous dit. Un classement régulier annuel du site internet de réservation hôtel.com a montré depuis 6 ans la dégradation permanente à Paris de la qualité de service du taxi parisien. Donc il y a 3 ans, on a créé les VTC pour compenser cette perte de qualité, et notamment vis-à-vis de la clientèle touristique. À Paris, en France, l'année dernière, on a reçu 61 millions de touristes. Le touriste est le premier, quand il arrive à l'aéroport, le premier commerçant qu'il rencontre, c'est le taxi. Combien de touristes dans Paris, on voit ailer un taxi, le chauffeur s'arrête, ouvre la fenêtre et pose la question au client, où est-ce que vous allez ?
Là, je crois qu'on s'écarte du débat, on est pas là pour faire,
Le débat, c'est sur la qualité de service.
On va passer tout le temps là-dessus, on a rien sur le statut, sur les conditions économiques d'exploitation.
Le VTC a été créé pour compenser une qualité de service. Les acteurs économiques se sont entrés dans ma société. Vous nous qualifiez de déloyal. Je serais très intéressé de savoir quel acteur VTC n'est pas déloyal. Par définition, nous sommes déloyaux, puisque nous existons. Nous sommes une forme de concurrence. Alors maintenant, on est là pour construire un futur. Il y a deux solutions. Soit vous nous voyez toujours comme un problème, soit vous nous voyez comme une solution ou comme un complément de votre activité. Si nous sommes déloyaux, il faut aller voir le gouvernement. C'est pas nous qu'il faut critiquer.
Bien, Bon, vous avez... Monsieur a exprimé son point de vue. Vous n'êtes surtout pas obligé d'y adhérer. Et je sais que bon nombre d'entre vous n'y adhèrent pas. Mais moi, je voudrais qu'on recentre un petit peu la chose, puisque effectivement, et là, je m'adresse un petit peu, je demande à tout un chacun qui veut répondre, c'est que M. Rousseau dit, écoutez, nous, on n'est pas venu là comme ça, un beau matin, pour embêter les taxis. Il y a le législateur a mis un statut qui nous a permis d'exister dans certaines conditions. Bon, et ça pose problème. Les taxis, eux, de leur côté, disent c'est une concurrence déloyale. Il faudrait peut-être définir ce qu'est la concurrence déloyale, parce que, me semble-t-il, est-ce que ce sont des conditions de fond, c'est-à-dire en termes d'organisation, il y a un vide juridique, on a permis, on a ouvert la porte, et c'est toujours le problème, quand on ouvre une porte, il y a des tas de gens qui s'engouffrent dedans, dans des conditions qu'on n'avait pas soupçonnées. Est-ce que ce sont des conditions qui sont liées au mode de fonctionnement, c'est-à-dire au non-respect d'un certain nombre de règles? On parlait de prise de commande préalable et d'interdiction de héler la clientèle, etc., pas de racolage. Voilà, ce que j'aimerais que vous puissiez peut-être, vous, représentants et forts de vos expériences, c'est définir ce qui est déloyal et ce qui pose problème. Et après, on reviendra sur M. Rousseau, qui pourra bien sûr à nouveau intervenir. M. Grizet,
d'abord, après M. Gabay. Rappelez qu'en aucun cas, lorsque la loi a été créée, la soi-disant mauvaise qualité de service des taxis a été abordée. La loi n'a pas été créée pour ça, la loi a été créée pour développer une activité disponible pour les touristes. Et donc, naturellement, cet argument-là n'est pas aujourd'hui acceptable. Et on voit très bien que, par rapport aux millions de consommateurs transportés par les taxis, la part de mécontents, entre guillemets, est tout à fait marginale. Et c'est pas ça qui peut justifier la création d'une autre activité. Non, la concurrence déloyale, elle se mesure de la façon sur laquelle, sur un même marché, les acteurs peuvent l'exercer avec des règles qui sont différentes. Voilà. Moi, je le dis quelquefois en caricature, je serais capable de battre Usain Bolt aux 100 mètres. Si Usain Bolt avait, au départ des 100 mètres, 50 kilos de pommes de terre à ses pieds, j'arriverais avant lui aux 100 mètres. C'est ça qui passe. On n'est pas sur le plan économique, sur le plan juridique, dans les mêmes conditions d'exploitation, et donc la concurrence est déloyale.
D'accord. Monsieur Gallet.
Alors effectivement, je vais concrétiser très clairement.
au niveau de la concurrence déloyale. Nous, les taxis, nous sommes les seuls à avoir législativement le droit d'être en attente de clientèle sur la voie publique. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit sur la région parisienne ou sur une autre région qui me touche directement, FFTP, ce sont les Alpes-Maritimes et plus précisément la zone PACA, c'est effectivement ce déplacement de véhicules de tourisme avec chauffeur qui, pour un événement X ou Y, arrive en flotte, stationne dans la rue pas très loin des hôtels, soudoie salariés des restaurants et des hôtels, et contre l'échange d'un petit pourboire, s'attribue la clientèle des taxis. Alors ça se passe comment? Eh bien le client, il demande un taxi, il descend, il règle sa chambre d'hôtel, et puis là il se retrouve devant un VTC. Comme il a un avion à prendre, ou un train, ou un rendez-vous, il n'a plus le choix, il prend le véhicule. Et là, il a un prix. Je rappelle que le véhicule de tourisme avec chauffeur doit sortir à partir du moment où il y a eu une entente préalable avec le client et un prix défini à l'avance. Là, je ne vois pas comment le prix peut être défini à l'avance. Le client se retrouve sans choix, dans l'obligation de prendre le véhicule de tourisme avec chauffeur et, pressé par le temps, rentre dans le système. Alors, la concurrence déloyale, elle est un petit peu là. Premièrement, très souvent, on voit des véhicules de tourisme avec chauffeur en attente sur la voie publique, en attente de clientèle. Ça, c'est un problème. Très souvent, le véhicule de tourisme avec chauffeur sort de son garage ou de son siège social sans avoir de réservation préalable. Là, il y a un souci. On a eu beaucoup de problèmes de conducteurs de véhicules de tourisme avec chauffeur qui n'avaient pas de carte professionnelle. Encore récemment, la préfecture de police a fait des interventions. On a eu le résultat, notamment là, le 30 janvier dernier. Il y a quand même eu, je crois, il me semble de mémoire, 110 infractions, 20 délits et des véhicules immobilisés, rien que dans le secteur de la région parisienne. Donc c'est une preuve quand même qu'il y a quand même un problème majeur. La carte professionnelle, il est très facile de l'obtenir. Au jour d'aujourd'hui, vous avez un bac général, vous avez un diplôme supérieur, on vous délivre une carte professionnelle. Et rajoutez en plus les cas que je vous ai cités tout à l'heure. Ça me paraît pas normal. Les gens, ils vont sur la route, ils vont conduire, ils vont faire du transport de personnes, et ils ne connaissent pas la réglementation en cours, et surtout les autres acteurs économiques du transport de moins de 10 personnes. Là aussi, il y a un souci. Vous êtes taxi. Alors, je ne parlerai pas de l'achat d'autorisation de stationnement, puisque je vous rappelle que dans certains secteurs, la loi le permet, vous avez encore la possibilité d'avoir une autorisation de stationnement gratuite. Donc, je parlerai simplement de l'équipement du véhicule. Vous êtes véhicule de tourisme avec chauffeur, vous avez votre carte professionnelle, vous remplissez un dossier à Atout France pour avoir une autorisation d'exploitation. À partir de là, pour 100 euros, si je me trompe, Monsieur Rousseau, vous me le dites, qui correspondent à des frais administratifs. Ça, c'est Monsieur Bémol qui me l'a dit, du ministère du Tourisme. Eh bien, vous pouvez mettre autant de véhicules que vous voulez. Et là est le problème. Du jour au lendemain, on peut créer une flotte. Alors, ce véhicule, je vous rappelle que nous, si on ne parle pas d'autorisation de stationnement, pour mettre en place un véhicule taxi, on a quand même un équipement obligatoire à acheter qui vaut entre 2500 et 2700 euros. Là, il y a un déséquilibre. Si on fait le parallèle avec le véhicule léger de transport public, eux, ils doivent avoir une capacité financière. Le VTC, rien. Il y a quand même un déséquilibre là. Et si en plus le véhicule de tourisme et chauffeur vient empiéter dans le secteur de travail du taxi, là aussi, il y a quand même plusieurs problèmes à régler. Alors si on arrive à réglementer, déjà au minimum que le conducteur, il ait un stage avec un examen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous faites un stage, mais vous restez 3 mois, je caricature, le long du radiateur, parce que le stage dure 3 mois, et où on vous donne le droit d'avoir cette carte professionnelle. Mais vous n'avez pas été dans l'obligation d'apprendre quelque chose, quoi que ce soit. Vous avez pu dormir pendant 3 mois, et on vous la délivrera. Donc là, il y a quand même un petit souci. Si j'ai fait le parallèle tout à l'heure avec le véhicule léger de transport public, sous la voie d'orientation du transport intérieur, c'est pas pour rien. L'examen, il est dur. Il est difficile. Hein, je crois que le taux de réussite doit être de 30%. Chez les taxis, c'est à peu près l'équivalent suivant les départements. Alors, oui, effectivement, il y a quand même un déséquilibre là. Et nous, le taxi, on garantit un prix qui est contrôlé par l'État. Ministère de l'économie, DGCCRF, puis par derrière, préfecture. Alors, au niveau du véhicule de tourisme avec chauffeur, le prix est libre. Mais on l'a vu récemment, d'ailleurs, ça nous a fait beaucoup de publicité, puisque une personne médiatique a pris pendant les fêtes de Noël un véhicule de tourisme avec chauffeur, qui stationnait illégalement d'ailleurs dans une station taxi, et s'est vu facturer un prix très important. Alors là, on le voit le principe, c'est-à-dire que ben, s'il n'y a pas beaucoup de demandes, on peut pratiquer des tarifs inférieurs au prix des taxis, comme ça on rentabilise pas mais on fait tourner les véhicules, et puis le jour où il y a beaucoup de demandes, on fait monter les prix. Et je le rappelle, normalement le prix doit être défini à l'avance, avant que le client ne vienne prendre le véhicule, et pas à la bord du véhicule. Maintenant, si on regarde concrètement ce qui se passe sur Paris, et d'ailleurs, c'est pas que sur Paris, dans la région des Alpes-Maritimes, c'est exactement le même problème. Vous allez dans un aéroport, en permanence, vous êtes racolé, si je puis dire, par des gens qui sont là en attente de clientèle pour faire du transport, ni plus ni moins que le métier de taxi. Transporter d'un point A à un point B. Et là, on parle même pas de tourisme. Ça peut être un VRP, n'importe qui. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses à mettre en place. Alors, je pense que le gouvernement a bien pris conscience de cela. Des évolutions vont, je l'espère, arriver pour clarifier et remettre chacun dans son secteur économique. Alors, on a vu les débordements que ce que l'on avait pu avoir dans la région PACA sur l'année 2011, notamment, dans une certaine société dont je ne ferai pas de publicité, qui n'existe plus d'ailleurs. Mais on voit où les dérives, jusqu'où les dérives peuvent aller.
Merci, M. Lebet. Avant de repasser pour cet exposé, avant de repasser la parole à M. Rousseau, je vais lui repasser la parole sous la forme de questions. Est-ce que vous avez un complément à apporter à ce que M. Gabet vient de dire?
Malheureusement, je crois que M. Gabet, ayant monopolisé la parole, a su résumer ce que l'ensemble de la profession pensait. Voilà.
Parfait. Ben oui, c'est, comment dirais-je, on va gagner du temps. Monsieur Renaudot, vous voulez répondre?
Oui, tout à fait. Je ne peux pas
répondre.
Compléter, voilà. Ben, si, répondre également, puisque je ne peux pas laisser passer ce qui a été dit concernant la qualité de service offerte par le taxi, puisque l'Union nationale des industries du taxi a réalisé cette année, pour la troisième année consécutive, un baromètre de satisfaction du taxi parisien. Donc la limitation, c'est qu'effectivement, cela ne concerne que le taxi parisien. Il faudrait sans doute l'étendre. Mais les résultats sont quand même extrêmement intéressants, puisque cette étude pour laquelle on a mandaté une société indépendante et qui a été réalisée cette année auprès de 1700 personnes qui ont réellement pris un taxi, qui descendaient d'une course de taxi, donc il ne s'agit pas de clichés, mais là on est véritablement sur des faits, ces personnes jugent à 95% qui sont satisfaits de la course de taxi qu'ils viennent de réaliser, et en plus en détail, ils sont satisfaits à 97% du véhicule, à 97% également du chauffeur, à 88% du temps d'attente, avec un temps moyen pour obtenir un taxi de 4 minutes, et à 85% du tarif. C'est un petit peu en dessous des autres critères, mais malgré tout, sur l'ensemble des critères, on a un très haut niveau de satisfaction, 1700 personnes. C'est un échantillon véritablement représentatif avec des personnes qui ont été interrogées à des heures différentes, à des moments différents et à des endroits différents. Donc, on ne peut pas dire que ce niveau de satisfaction est stable. L'an dernier, il était à 96%. Il y a 3 ans, il était un peu plus bas. Il était à 94%, je crois. Donc, globalement, on est à des très hauts niveaux de satisfaction vis-à-vis du taxi.
Très bien, merci de cette précision. De toute façon, l'objet de cette conférence n'est pas la qualité du service rendu par les taxis. On sait que dans toute profession, il y a des gens qui travaillent mieux que d'autres, et qu'effectivement, on se souvient toujours de ce qui a été désagréable, mais on oublie très rapidement de ce qui a été très bien. Et ça, c'est valable, je dirais, dans toutes les professions, donc on peut clore le sujet là-dessus. Je vais revenir, monsieur Rousseau, vers vous, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'arguments qui ont été... ce que j'ai entendu, c'est il y a des problématiques de conditions d'exploitation, parce que, donc, aux conditions d'exploitation au sens large, des charges qui sont supportées par des gens qui ont un statut aux charges qui ne sont pas supportées par les autres, et puis des problématiques aussi liées à non-respect d'obligations, puisque un VTC a certaines obligations, le fait de prendre une commande suffisamment au préalable, le fait de ne pas se livrer à du racolage, le fait de ne pas soudoyer, j'ai entendu parler de soudoyer des gens pour obtenir donc le marché, ou du moins venir à l'encontre de l'activité d'un taxi. Bref, je résume, vous, je suppose que vous êtes un chef d'entreprise tout à fait respectueux de la légalité. Comment vous voyez ça et qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument qui correspond quand même à une certaine réalité, hein, objective?
Concernant les conditions d'accès du métier en tant que chauffeur, il y a trois moyens d'avoir un permis VTC. Soit effectivement vous suivez un stage de formation qui dure 3 mois et qui coûte 5000 euros. Soit vous avez une expérience de 12 mois en tant que chauffeur, même pour un éboueur. Au passage, je trouve pas ça très respectueux pour l'éboueur parce que tout le métier est digne et tout historique de métier est digne aussi. Bon, je pense qu'il a aussi conduit pendant 12 mois son camion de poubelle. Il peut très bien conduire les gens. Et troisième moyen, c'est la validation du baccalauréat. Je vous rejoins effectivement sur le fait qu'il y a un gros problème des VTC en ce moment, qu'il ne faut pas résumer en appelant ça du taxi clandestin, parce que moi, quand je suis à Roissy, je vois beaucoup de gens, enfin de chauffeurs, qui racolent effectivement une clientèle, mais ils sont pas plus VTC que vous et moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être VTC pour aller racoler des clients à l'aéroport. Ils le font en toute illégalité. Et ceux-là, effectivement, ils sont condamnables. Alors après, effectivement... Dans l'exercice du métier, il y a des acteurs qui ne se cachent pas. Vous l'avez cité sans le citer tout à l'heure, donc moi je vais le citer, la société Uber. Vous avez des sociétés à Paris qui effectivement mettent sur la voie publique, sans avoir été précommandé, des véhicules en attente, et avec des systèmes technologiques, créent une interface de commande qui remplace finalement le fait de laisser son taxi dans la rue. Et effectivement, je condamne ce genre de pratique. Des plaintes même ont été déposées. Ma société a déposé plainte contre la société Uber pour ce genre de pratique. La police des taxis, monsieur Rousseau, on ne peut rien faire contre eux, il n'y a pas de sanction prévue dans ce cas de figure. Donc à part de leur dire circuler, il n'y a rien à voir, on ne peut rien faire. Alors j'ai émis moi une hypothèse, c'est qu'il y a un problème d'identification. Qu'est-ce qu'un VTC, qu'est-ce qu'un taxi ? Comment voir qu'un VTC est en attente illégale sur la voie publique? On ne peut pas, pour une raison simple, c'est que c'est un véhicule particulier. À part une toute petite vignette de 8 cm sur 8 collée sur le pare-brise, il n'y a aucun élément visible suffisamment de loin pour reconnaître que c'est un véhicule VTC, en activité ou en stand-by. Ma suggestion, ça a été de dire, prenons l'exemple de ce qui existe en Angleterre, les mini-cabs, qui sont les VTC locaux, et les taxis. Les taxis ont un lumineux taxi marqué taxi sur le toit, et les minicabs ont un lumineux minicab marqué minicab sur le toit. Voilà un élément, voilà une piste de travail pour afficher la flotte et contrôler notamment l'étendue de la flotte dans la réalité dans les rues de Paris ou en France, et qui permettrait notamment de tout de suite pouvoir aux forces de l'ordre contrôler ces véhicules, à savoir s'ils sont en train de travailler ou pas. Parce que sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que des sociétés comme Uber ou chauffeurs privés en sont à 300 véhicules dans les rues de Paris, où vous avez des berlines Mercedes noires qui stationnent sur les Champs-Élysées, Porte Dauphine, avenue Diana, partout, en attente de clientèle. Et effectivement, ça nous cause du tort. Moi, ma société, je revendique pour mettre un lumineux sur tout véhicule VTC, comme en Angleterre.
Attendez. C'est une proposition qui a été argumentée. On peut ne pas être d'accord, mais respectons ce qui peut être émis.
Le seul argument.
Et après, bien évidemment, je vais passer la parole à un représentant.
Je termine sur ce point. Le seul argument qui nous a été retoqué jusqu'à présent, c'est de dire vous pouvez le faire, à condition que ça ne soit pas lumineux. Donc, alors, on se parle. Nous pouvons mettre un caisson sur nos véhicules, marqué VTC ou le nom de notre entreprise. S'il n'est pas lumineux, on est dans la légalité. Est-ce que c'est un acte de concurrence déloyale? Non, au contraire. Nous affirmons nos véhicules, nous les montrons à qui veut et charge à la police de contrôler nos chauffeurs. Soit les taxis, c'est une piste de travail, vous pouvez accepter ça, ou sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous voulez interdire ce genre de pratique? Des sociétés comme Uber vont installer de plus en plus de véhicules qui seront complètement fondus dans la masse et dans la circulation, que vous ne verrez jamais, et qui pour autant, progressivement, vous prendront de la part de marché.
Bien, merci. Donc, si je comprends bien, ce que vient de dire M. Rousseau par rapport, et là, il était, semblait-il, d'accord avec ce qui avait été dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles et les obligations qui incombe au VTC, et sa proposition, c'est de dire si on peut identifier un VTC, ça évitera justement toutes les problématiques de racolage sauvage, on saura exactement qui est qui fait quoi, et qu'est-ce que ça vous, monsieur Richard, qu'est-ce que ça vous donne comme réflexion?
Non, attendez. Que les VTC aient des enseignes sur le toit, c'est absolument inacceptable, et ce ne sera jamais accepté par la profession. Là, il y a ambiguïté, la clientèle sera bernée, ne saura pas si elle prend un taxi ou un VTC. Là, on est vraiment... c'est dans le maquillage pur et simple du taxi. Donc, la profession rejette purement et simplement, non seulement l'enseigne, câble, ce qu'on veut, et également le compteur, parce qu'il y a Anguille-sous-Roche qui aura également un compteur. Donc ça, ces deux installations-là sont refusées totalement par la profession.
Monsieur Wilder, vous êtes peut-être d'un avis différent, non?
Non, je plaisante. Je crois pas.
Excusez-moi. Alors, dans ces cas-là, comment vous luttez contre des sociétés comme Uber?
Je vais vous repasser la parole après.
C'est un acteur qui a un fort taux de croissance à travers le monde.
Attendez. On se parle pas en dialogue. Monsieur Wilder, après Monsieur Aubrel.
Oui, donc par rapport au caisson qui soit lumineux ou pas, ça va de soi que je ne peux pas l'accepter. On peut trouver un autre moyen de reconnaissance.
D'identification.
Déjà, aujourd'hui, sur les VTC, le petit insigne est vraiment trop petit. S'il arrive déjà à mettre celui à 8 par 8 à l'avant et à l'arrière, on va déjà mieux les reconnaître. En ce qui concerne Uber, là par contre je le rejoins totalement Monsieur Rousseau dessus, Uber travaille totalement dans l'illégalité, il a même été interdit à New York, qui est pourtant un endroit on ne peut plus libéral. Ils ont décidé d'interdire Uber parce qu'ils ne respectent pas leur réglementation VTC à New York. Donc je le rejoins totalement là-dessus. Par contre, il n'est pas question qu'il y ait un signe de reconnaissance qui puisse porter à confusion par rapport à nous.
D'accord. Donc, un refus de reconnaissance, en tout cas trop proche ou identique, pour éviter une confusion de la part du client qui, effectivement, s'il voit quelque chose sur le toit, quand on n'est pas vraiment habitué, qui plus est quand on est un touriste étranger, on ne sait pas à qui véritablement on a affaire. Mais un signe de reconnaissance, c'est quelque chose, vous comprenez cet argument de dire, on a intérêt à ce que les VTC soient clairement identifiés, de façon à ce que le consommateur, d'attention moyenne, comme on dit dans les enquêtes INSEE, puisse savoir à qui il s'adresse.
Et surtout, aujourd'hui, le problème de la concurrence, c'est sur la réservation préalable. Il faut absolument qu'on mette un temps minimum de réservation. Aujourd'hui, si je vous appelle maintenant, vous êtes réservé. Ça ne veut plus rien dire. Alors que nos clients, quand ils nous appellent sur des centraux, ils nous réservent. Quand ils nous appellent dans la rue, ils nous réservent. Donc là, c'est du direct, ce n'est pas autre chose. Donc il faut absolument qu'on arrive à cadrer un temps qui soit de 1 heure, 2 heures, je ne sais pas combien on peut mettre, pour qu'ils puissent travailler dans une concurrence loyale et que nous, on puisse faire la différence entre le taxi et la commande préalable.
Oui, qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on puisse appeler un chat, c'est-à-dire on réserve, ça prend. On veut réserver une voiture à une heure donnée et c'est pas dans la rue, on va se dire, tiens, je vais réserver un véhicule, c'est un petit peu ça.
Je vous donne un coup de téléphone maintenant, je vous fais signe dans la rue. Vous me dites, je peux pas, il faut que je sois réservé, je vous envoie SMS, vous êtes réservé, ça veut rien dire.
D'accord. Monsieur Aubrel, pardon.
Alors donc, on a bien compris que, bon, un problème de signalétique pour les contrôles. Mais le vrai problème, où est-il? Puisque ce monsieur se plaint de la société Uber qui met de plus en plus de voitures dans la rue. Donc le problème premier, principal, c'est quoi? C'est le contingentement de ces véhicules. Au jour d'aujourd'hui, une société des VTC peut mettre des voitures tant qu'il y a plus dans la rue. Il faut rappeler que nous, les taxis, nous sommes munis d'autorisation de stationnement sur la voie publique. Mais une autorisation, une voiture. Or, aujourd'hui, une inscription à tout France, c'est 10, 20, 100, 1000 voitures. C'est là où est le vrai problème. C'est ce que monsieur occulte, parce que lui, ça l'arrange aussi d'aligner des voitures sur la rue, même si lui dit qu'il fonctionne correctement par rapport à ses concurrents qui bafouent toutes les règles. Voilà, le vrai problème de notre profession, où là où est la concurrence déloyale la plus importante, c'est le non-contingentement de tous ces véhicules qui se promènent dans les rues.
Donc il y a toujours vous pouvez l'applaudir, vous pouvez les applaudir. Donc toujours ce problème de déséquilibre finalement dans les conditions d'exploitation et d'accès au marché.
Tout à fait.
Monsieur Rousseau, par rapport à ce qui vient d'être dit,
écoutez, sur le nombre de véhicules, j'entends l'argument. J'ai deux remarques. La première, c'est que le coût d'acquisition d'une autorisation de stationnement ne vous limite qu'à cette autorisation de stationnement, que si les conditions ont été faites pour pouvoir mettre autant de voitures que l'on veut pour 100 euros, libre à vous de le faire, et non seulement libre à vous de le faire, mais 70% des inscriptions à Tout France sont issues de taxis ou d'anciens taxis. Donc la majorité des gens inscrits à Tout France sur l'ensemble du territoire français, c'est les taxis. Donc vous jouez ou vous pouvez jouer sur les deux tableaux. Maintenant, concernant Uber, vous m'interpelliez. Moi, j'ai rien contre que Uber installe 300 ou 1000 véhicules. Ce qui m'embête en tant que VTC, c'est que les véhicules Uber sont physiquement et dans la réalité des faits. Moi, j'ai rien à cacher. Tous mes véhicules, j'ai des autocollants, je communique dessus. J'ai rien, je n'ai pas à me mettre en sous-marin dans les rues de Paris. Tous les autres, et en majorité Uber et aussi un peu chauffeur privé, c'est des véhicules banalisés. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Et pour autant, ils sont là. Et là, la vraie menace et la vraie distorsion de concurrence, elle est là. C'est pas un concurrent qui va vous dire ouvertement « je suis un concurrent », mais bien sûr que je suis un concurrent du taxi, puisqu'on partage la clientèle. Je ne vais pas, à chaque fois qu'un client m'appelle, lui dire « mais est-ce que vous êtes que touriste ?» Non. J'ai des clients qui, en photo roulant qui m'appellent en disant « monsieur Rousseau, on ne trouve pas de véhicule adapté pour. » On passe par vous. J'ai des clients qui m'appellent, j'ai un animal, j'ai un chien, je ne peux pas prendre un taxi parisien, est-ce que vous pouvez m'envoyer une solution? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend une partie de votre clientèle que vous délaissez. Alors après, effectivement, ça peut faire mal aux oreilles d'entendre ça, mais c'est la réalité des faits.
Attendez, je pense qu'on peut pas... Attendez, s'il vous plaît, je vais me faire le porte-parole de vous. Je pense qu'on ne peut pas dire que les artisans taxis ici, a priori, sont tous des gens responsables, peut-être à une ou deux exceptions près, je ne les nommerai pas. Non, mais on ne peut pas dire que un entrepreneur, quel qu'il soit, un taxi fonctionné, délaisse sa clientèle. Il y a des conditions d'exploitation ou de marché qui font que, effectivement, peut-être ne peut-il pas... voilà, je pense qu'il faut peut-être modérer un peu l'approche. Allez.
Juste une toute petite remarque. Si je demande à la main levée aux personnes qui ont une berline de lever la main, je pense que je vais avoir au moins 30 ou 40 bras levés. Si je demande qui a un véhicule 100% adapté PME, je pense que les mains vont en avoir beaucoup moins. Je pense que la profession du taxi, vous avez fait une erreur. C'est dommage de l'entendre, mais c'est la réalité. Je ne l'invente pas, c'est les faits. L'erreur que les taxis en France ont fait, c'est qu'ils ont refusé une standardisation de leur métier. Avec un véhicule unique, avec un véhicule 100% adapté pour les personnes handicapées et une couleur unique. Chose qui existe à New York, le NV200 de chez Nissan a remporté le marché en 2014 où 14 000 taxis new-yorkais vont être équipés de taxis NV200 de chez Nissan. En Angleterre, c'est le London Taxi, donc le taxi anglais. En France, pourquoi on n'a pas une couleur unique dans la profession? Et c'est pour ça que vous avez la société Voiture Jaune qui s'est installée sur Paris avec cette couleur. Mais pourquoi on n'a pas un véhicule unique qui accepte 100% de la clientèle? Pour une raison simple. Suite au rapport Attali, il y a le rapport Chassigneux. Et le rapport Chassigneux, le rapport disait, le député Chassigneux, le taxi en France, on a un gros problème, c'est que le chauffeur, il achète d'abord son véhicule pour lui-même, et accessoirement pour
ses clients après.
Non,
dans
non.
sa majorité. C'est pas moi qui le dis. Non. Je ne fais que citer les faits.
Bon, alors c'est une citation, donc...
Non. Vous avez des représentants qui vont répondre et après je vous passe la parole.
Non, mais je vous passerai la parole, mais vous avez des représentants à la salle. Mais bien sûr, attendez. Non, il ne s'agit pas de ça. Attendez, monsieur. Je vais laisser monsieur Grisel demander la parole et après monsieur Gabet. Sur la problématique, justement, des différents services, notamment les PMR, qui effectivement, personnes à mobilité réduite, sont un vrai sujet, pas pour les taxis d'ailleurs, mais pour la collectivité tout entière.
Bien, je comprends bien la tactique de monsieur Rousseau qui essaye de mettre le doigt sur des supposés manques de la profession de taxi pour justifier son existence. Bon, on va essayer tous ensemble de voir revenir au point de départ de l'objet de la conférence, et en particulier sur les aspects qui sont nécessaires de mettre en place pour rétablir une concurrence saine. Il y a trois éléments tout à fait indispensables. Effectivement, il y a la nécessité de contingenter le nombre de véhicules de façon à ce qu'une entreprise inscrite puisse pas avoir autant de véhicules que nécessaire. Il est indispensable que l'accès au fait de conduire un VTC. Alors moi je suis un peu choqué que M. Rousseau compare ses clients à des déchets transportés dans un camion poubelle. C'est pas tout à fait la même chose.
Mais
quelqu'un qui conduit un camion poubelle et conduit des déchets, c'est pas tout à fait pareil que de conduire une personne humaine. Donc on va dire qu'il est qualifié de la même façon. Donc,
c'est plus proche.
Nous exigeons qu'il y ait une qualification pour la conduite de ces VTC, de mon point de vue, qui doit au moins être de niveau 4. Le taxi aujourd'hui, l'accès c'est le niveau 5, donc niveau 4, puisque l'objectif c'est de conduire une clientèle particulière, donc au moins au niveau 4. Et puis l'identification, elle doit exister sans aucun doute, mais elle doit être totalement différenciée d'une identification qui doit peut-être d'une façon ou d'une autre comparer à un taxi. Ces trois éléments-là sont absolument indispensables, auxquels il faut rajouter un élément, même s'il n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, c'est qu'il y ait des sanctions qui soient suffisamment dissuasives pour que tout manquement à ces règles soit puni de façon la plus sévère. Et peut-être qu'à la condition de réunir l'ensemble de ces éléments, on reviendra dans une situation dans laquelle chacun pourra exercer sa profession de façon normale.
Merci. Monsieur Gabet, vous voulez aussi...
Tout à fait. Je pense que les avancées que nous avons eues avec le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme récemment au sujet de l'évolution législative du statut du VTC, je pense qu'ils vont contribuer à un retour à l'équilibre des deux professions. Actuellement, je reprends un de vos chiffres, vous dites que 70% des taxis sont 70% pardon des conducteurs de VTC sont d'anciens taxis ou sont des taxis en activité. Alors ce chiffre, je ne sais pas d'où vous l'avez, mais il est erroné à ma connaissance. Il semble que sur Paris, nous sommes à 43%.
Non, excusez-moi, je vous coupe. Il sort du rapport de Atout France qui a sorti ce rapport en avril 2012.
Bah écoutez, là,
c'est un chiffre public et qui est issu de l'organisme qui gère les inscriptions. Donc voilà.
Le chiffre que je vous donne, il est lié sur les 4093 entreprises actuellement enregistrées à Atout France et sur la région parisienne, nous sommes à environ 43% de détenteurs de cartes professionnelles taxi qui ont demandé une immatriculation à Atout France et environ 47% sur la France. Voilà. Ah, effectivement, dans certains domaines, il y a une demande très très importante. Alors, nous sommes, je parle nous, les fédérations taxi, nous sommes contre la confusion possible du client entre le taxi et le VTC. Et nous sommes contre le fait qu'on puisse utiliser un taxi en version privée comme un VTC. J'entends par là utilisation double du véhicule. Alors, une fois VTC, une fois taxi, ça aussi, ça ne nous paraît pas normal. Donc les propositions faites par les fédérations, acceptées par le gouvernement actuellement, qui vont peut-être, nous l'espérons, déboucher sur des décrets en Conseil d'État, voire pour certains points passer par le côté législatif, je pense que permettront de remettre une concurrence loyale, c'est-à-dire chacun chez soi, dans son secteur d'activité, en respectant l'autre. Ça nous paraît très important. Le stage... Un stage sans examen à l'issue ne garantit aucune qualité de formation.
bah, j'en suis désolé. Donc nous, nous tenons à ce qu'il y ait un stage, nous tenons à ce qu'il n'y ait plus aucune équivalence. Je vous rappelle que pour dans le, la loi d'orientation du transport public, pour avoir une capacité de transport de voyageurs, il n'y a aucune équivalence. Pour le taxi, nous n'avons aucune équivalence. Je ne vois pas pourquoi nous aurions des équivalences fantaisistes pour devenir conducteur de véhicules de tourisme avec chauffeur. Voilà, ça c'est très clair. Et ça a favorisé effectivement ce transfert d'une partie de notre population taxi vers le véhicule de tourisme avec chauffeur, puisque étant beaucoup plus libéral. Ça, c'est très très clair. Alors maintenant, Monsieur Rousseau a abordé un sujet en disant, bah oui, mais vous, vous avez, vous pouvez revendre aussi, en gros, j'ai sous-entendu, vos autorisations de stationnement, ça coûte cher, mais une entreprise de véhicules de tourisme avec chauffeur peut très bien, dans le cadre du Code du commerce, revendre son portefeuille clientèle. Et elles le font. Alors je vois pas où est la différence à ce sujet. On est bien d'accord. Une entreprise de véhicules de tourisme à chauffeur qui a un portefeuille clientèle, imaginons que ce soit une SARL, décide de revendre une partie ou la totalité de ses parts de la société, peut très bien le faire au prorata de son chiffre d'affaires et de son portefeuille clientèle. Il n'y a aucune différence. Nous sommes d'accord.
Comme toute entreprise commerciale, effectivement.
Toute entreprise a la possibilité de le faire. Voilà. Alors par contre, nous, quand on met, je le rappelle, j'insiste là-dessus, mais quand on met un véhicule en service, on ne peut en mettre qu'un seul par autorisation de stationnement, et on paye à chaque fois 2 500 €, alors que là, on paye 100 € et on en met 1 000 si on veut.
C'est ce que disait l'un de vos confrères tout à l'heure.
Il y a quand même un souci.
Hein, qui crée une condition d'exploitation déséquilibrée.
Voilà. Ensuite, il y a le gros problème.
Un dernier détail. Je voudrais qu'on avance, parce que le temps passe vite, mais c'est un sujet passionnant.
Le gros problème dans le VTC, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, imaginez une personne qui a une activité annexe, qui décide pour l'été de dire « Ah, je vais me faire un complément d'activité pendant mes congés. » Je loue un véhicule qui correspond aux caractéristiques du véhicule de tourisme avec chauffeur. J'ai bien sûr préalablement eu une inscription à Tout France, qui entre autres ne contrôle pas le véhicule actuellement en service. Et je vais aller faire la saison du côté de Saint-Tropez, Cannes, Nice, pour me faire un peu d'argent de poche. Sous un statut, par exemple, d'auto-entrepreneur. Formidable.
D'accord. Effectivement, ça c'est un des... Donc je note, et ça va dans le droit fil de ce qu'on disait sur la problématique du statut, qui finalement en est un sans en être un, avec des vides juridiques qui dont les principales conséquences sont le fait d'un déséquilibre entre les conditions d'exploitation et d'autres. Je voudrais, le temps avançant, je suis désolé, puis je voudrais quand même passer la parole à certains d'entre vous, notamment vous, monsieur, sinon vous allez m'en vouloir toute la soirée, et ça me peinerait. Il y a eu des discussions donc qui se sont déroulées. On va élargir un petit peu. Monsieur Rousseau ne représentait que lui-même, et je le remercie de toute façon déjà d'être venu pour exprimer ses idées, même si certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec lui. Mais je voudrais vous élargir un petit peu parce qu'il y a eu des discussions cet été entre la fédération des exploitants de véhicules de tourisme et chauffeur et les fédérations de taxi. Et ce sera intéressant d'aborder finalement quel est l'état de ces discussions. Est-ce que vous avez pu échanger? Est-ce qu'il y a des rapprochements? Sachant que moi je ferai dans le droit fil où je une petite déclaration à leur nom, puisqu'ils nous ont demandé de passer à l'occasion du taxi, passer un petit peu un message qui définit leur position par rapport à certains sujets. Monsieur Richard.
C'est pas à cette question-là que je vais répondre, mais comme le temps avance et puis qu'après il va y avoir des questions de la salle. Suite aux manifestations, je voudrais donner les propositions de l'ensemble des fédérations qui ont participé aux manifestations, les propositions auxquelles nous sommes attachés, sachant que le gouvernement ne supprimera pas d'un traité les VTC. Donc voilà, nous, les propositions que nous faisons au gouvernement, des propositions que nous ne lâcherons pas. Recentrer sur le luxe, définition du champ d'activité, tourisme haut de gamme, définition d'un périmètre d'activité, relèvement du coût d'inscription à Tout France au minimum 10 000 € pour le premier véhicule et 5 000 par véhicule supplémentaire. Justificatif fiscal attestant de l'activité à 18 mois d'existence puis tous les 3 ans. Application d'une TVA unique à 19,6. Interdiction d'installation des entreprises en zone franche. Preuve de réservation préalable obligatoire faite au siège de l'établissement au moins 2 heures avant, mentionnant l'identité de la personne transportée, lieu de départ et d'arrivée, ainsi que le montant arrêté de la prestation.
attribution d'un code NAF autre que 4932 qui est celui des taxis, interdiction de la sous-location et toute franchise, interdiction de toute publicité diffamatoire envers les taxis. Pour les chefs d'entreprise, stage de 10 jours obligatoire pour le chef d'entreprise ne conduisant pas, réglementation sur le transport de personnes de moins de 10 places, interdiction du statut d'auto-entrepreneur. Pour les chauffeurs, formation obligatoire avec examen, anglais lu et parlé obligatoire, nouveau grand remisier, pas de dérogation possible, pas d'équivalence. Pour les véhicules, augmentation de la qualité du véhicule, longueur, finition, puissance minimum, tout mode de motorisation, pas de location courte durée, durée de vie du véhicule à définir, sauf véhicule de collection, signalétique d'identification particulière à l'avant et à l'arrière sur les plaques d'immatriculation des véhicules, interdiction de toute publicité extérieure sur les véhicules, interdiction absolue de tout équipement spécifique lumineux compteur pouvant entraîner une confusion avec les taxis.
Bien, au-delà de... Merci d'avoir fait ce rappel, mais au-delà, par rapport aux rencontres que vous avez eues avec la Fédération des entreprises exploitants pour des véhicules de touristes et de chauffeurs, est-ce que vous pouvez, l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous, nous en dire quelques mots? Monsieur Galloway?
Alors, la Fédération française des exploitants de véhicules de tourisme et chauffeurs, avec laquelle nous avons travaillé, nous rejoint sur de nombreux points, notamment l'examen pour le stage pour le chef d'entreprise de 15 jours, 10 jours ouvrables, l'examen pour le stagiaire et avant délivrance de carte de conducteur de VTC. Ça, ce sont des points qui sont sur lesquels nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes d'accord pour la non-équivalence, c'est-à-dire aucune possibilité d'équivalence pour obtenir cette carte professionnelle. Nous sommes d'accord pour recentrer l'activité du VTC sur ce qu'était l'ancienne grande remise. Ils sont d'accord, hein, ce qu'était l'ancienne grande remise avant, c'est-à-dire une exploitation dans le cadre du tourisme haut de gamme. Et comme vous le voyez, la réservation préalable, ils sont aussi d'accord. Donc il y a de nombreux points communs avec cette fédération qui cherche à obtenir un travail en complémentaire du taxi, qui cherche à travailler dans un secteur d'activité complémentaire au taxi et qui cherche à travailler dans le cadre d'un label de qualité.
Très bien. Alors moi, je vais vous, comment dirais-je, ça tombe bien, entre guillemets, vous allez voir qu'il y a une parfaite cohérence avec le petit mot que nous a envoyé la Fédération française d'exploitation de véhicules tourisme et de chauffeurs, et qui s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui, qui a d'ailleurs eu une réunion avec le ministère de l'Intérieur le 8 février, c'est-à-dire vendredi, et dont elle mettra les résultats sur son site internet. Donc vous pouvez y avoir accès. Mais donc ils nous ont écrit en nous demandant, en nous autorisant bien sûr, en nous demandant de vous faire savoir que leur fédération a été créée pour que tous les VTC ne soient que des ex-grandes remises hautement qualitatifs et exploitant uniquement la clientèle touristique, laissant la place aux taxis, mais également ils nous ont demandé de préciser que leur fédération, en ce qui concerne le tiers payant des malades assis, avait donné sa parole de ne jamais signer de convention tiers payant. Il ne s'agit pas pour eux de se placer sur ce sujet, pour ne pas pénaliser les taxis et rester ainsi en harmonie avec eux dans le cadre d'une complémentarité. Ils estiment que les taxis assurent un service public dit classique, très réglementé, et que les VTC, le gamme ex-GR. Voilà. Je l'ai résumé rapidement, c'est un email qu'ils nous ont envoyé, mais effectivement, on voit donc là qu'il y a des possibilités finalement de complémentarité de service, et le tout bien sûr au service du client et du consommateur. Je vais maintenant passer peut-être la parole à certains d'entre vous, il y en a qui veulent poser des questions à tous les représentants qui sont ici. Monsieur, et après je commence ici, et après je vais venir dans la salle, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc, vous vous présentez, soyez concis, hein, vous ne parlez pas pendant une demi-heure, parce qu'on n'a pas le temps, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, et en même temps, toujours de façon mesurée, même si vous n'êtes pas d'accord avec les arguments de vos interlocuteurs.
Oui, bonjour, je suis Christian Delemel, je suis président de la Chambre syndicale des artisans taxis. Vous disiez, monsieur, que vous pouvez transporter TPMR. Est-ce que vos véhicules sont équipés pour transporter des personnes en fauteuil roulant lourd? Deuxièmement, vous proposez, je vois sur votre site internet que les taxis refusent systématiquement les gros bagages et les chiens. Troisième question, pourquoi mettre, puisqu'on parle de concurrence déloyale, le terme taxi sur le moteur de recherche Google? Et ma question, je voudrais que vous m'expliquiez à tout le monde comment vous faites pour offrir un beau véhicule gratuit à tous vos salariés. Merci.
Monsieur Rousseau va vous répondre.
Oui, les véhicules sont agréés pour le transport de personnes handicapées avec fauteuil léger ou lourd.
Si, c'est lui.
Si. Ah si.
Vous avez un rail pour prendre les personnes, transporter pour les monter dans vos véhicules? D'accord, ben on verra ça.
C'est pas moi qui fabrique le véhicule, hein, je l'ai acheté. Mais en tout cas, c'est possible. Ah, c'est possible, enfin, je veux dire, ça se fait. Pardon, c'est possible. Si vous voulez, vous le faites. Mais non, soyez pas véhément. Je vous dis que les véhicules peuvent prendre fauteuil, prennent fauteuil léger et lourd, avec rampe. Vous voulez une démonstration? Vous passez au bureau, je vous ferai une démonstration.
Non, on n'a pas le temps, oui. Ça, vous pouvez prendre rendez-vous après, éventuellement. Oui, le terme taxi sur le moteur de recherche Google.
Je ne l'emploie pas. Je ne l'emploie pas, c'est Google qui le fait.
Attendez. Alors.
Comme l'a rappelé tout à l'heure l'UNIT, ils nous ont attaqué sur deux procès. Ils ont perdu leurs deux procès parce que nous n'utilisons pas le mot taxi sur nos supports. Et la dernière question, c'était?
Il y a cab, c'est marqué cab qui veut dire taxi en anglais quand même. C'est bien marqué taxi.
Ah, vous avez dit taxi, vous n'avez pas dit cab.
Il y a cab, sur le site.
Voilà, comment faites-vous pour offrir un véhicule gratuit à vos salariés?
Tout à fait. Venez aux séances de recrutement, puis je vous dirai.
Bon. D'autres questions?
Ça n'a aucun rapport avec le débat de VTC Taxi, monsieur. Là, c'est une attaque directe. Donc, si vous voulez, vous viendrez à mon bureau et on discutera. Mais là, je ne suis pas venu aujourd'hui pour décrire dans le détail mon activité, mais faire un débat sur le VTC et sur le taxi.
Voilà. Bien,
mais j'assume parfaitement, donc je vous.
Parce que, monsieur, c'est le débat aujourd'hui. L'assistance n'entend pas votre dialogue, donc. Alors, élargissons, hein, je veux dire, je crois que monsieur Rousseau s'est exprimé, il ne représente que lui. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites, voilà. Notamment sur l'organisation de la concurrence, etc. Donc, vos témoignages, effectivement, sont tout à fait intéressants. Hein. On va élargir un petit peu le débat.
Bonjour monsieur, je suis artisan taxi à Paris. Vous dites qu'en 2009 il y avait 400 VTC, aujourd'hui ils sont 10 000. Je pense que si on est passé de 400 à 10 000, c'est parce que aucune des obligations déjà inscrites des VTC n'est respectée. À savoir que si les VTC devaient réellement ne travailler uniquement que sur réservation, si les VTC ne prenaient pas les voies de bus systématiquement, si les VTC ne racolaient pas dans la rue, il n'y aurait pas à manger pour 10 000 voitures. Donc, avant d'essayer de trouver des paravents un petit peu frêles, faisons respecter la réglementation qui existe déjà, et le nombre de VTC baissera naturellement en fonction du travail possible pour ces gens-là.
Sachez qu'on a travaillé sur ce dossier, qu'on a demandé des établissements de fiches réflexes. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ne sont pas formées, ni les policiers, ni la gendarmerie nationale. Et donc nous avons demandé l'établissement de fiches réflexes à l'établissement de ces forces de l'ordre pour qu'elles sachent comment identifier un véhicule de tourisme avec chauffeur, quoi leur demander, etc., etc. Plus l'évolution de la législation, notamment dans le pénal, sur les VTC.
Dans la vie réelle, parce que là on est dans un débat conférence. Dans la rue, si vous mettez le nom d'une voie de bus, vous allez voir qu'il y a à peu près trois taxis qui passent pour un VTC au jour d'aujourd'hui et ils passent impunément. Et si vous leur faites un appel de phare en tant que taxi derrière eux, ils vous font un bras d'honneur. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, pratiquement cette nuit, je suis tombé en panne avec ma voiture. J'ai levé le bras, il y a un VTC qui a plongé sur la gauche et qui m'a demandé, monsieur, je peux vous amener quelque part. Voilà. Dans un troisième temps, peut-être que c'est que des pirates qui sont... vous dites, monsieur Rousseau, que c'est que des pirates qui sont aux aéroports. Bah, allez un petit peu à l'aéroport et vous verrez que les pirates, ils ont un petit papier bleu sur leur pare-brise et ils vont racoler les clients. Ça, c'est la vie réelle. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on va laisser développer le nombre de VTC et qu'on se fera avoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont 10 000 et que si la réglementation n'est pas suivie, demain, ils seront 20 000 et vous pouvez mettre toutes les lois, les syndicats, toutes les lois en contre. Vous n'y arriverez pas parce qu'ils ne les arrêteront pas. C'est juste ça.
Mais nous sommes d'accord, monsieur, ce que vous disons, ça ne peut pas se faire en un jour. Et il nous faut le support du pouvoir public. Si les pouvoirs publics n'évoluent pas, ne vont pas dans notre sens, eh bien effectivement, nous n'avancerons jamais, même si la législation évolue.
Effectivement, on ne peut pas avoir une situation qui se règle comme ça d'un claquement de doigts. Il y a des évolutions législatives nécessaires, mais en même temps, il ne faut pas non plus avoir une vision trop pessimiste. Il y a d'autres activités où il y a eu des gens qui se sont introduits sur des marchés et qui ont été sortis de ce marché parce qu'ils ne respectaient pas un certain nombre de règles. Je vais lire le fond parce que je vois un monsieur qui se fatigue à faire de la gymnastique. Voilà. Allez-y. Soyez synthétique, s'il vous plaît.
Alors, moi, il y a une chose que je voulais dire. Bon, j'ai été pendant 10 ans représentant de la profession. Bon, il y a un petit problème quand même. On fait beaucoup de règlements. Déjà, bon, comme vient de le dire le monsieur, qui est-ce qui va les appliquer? Ça, c'est encore un problème. Alors, on met les VTC. À une certaine époque, il y avait les grandes remises, les petites remises, qu'on arrivait plus ou moins, mais enfin, relativement bien à contingenter. Bon, maintenant, on augmente le nombre de gens qui, en réalité, même sans en avoir les charges ni les obligations réglementaires, font le taxi. Alors, il y a quand même un problème. On est dans le salon du taxi. On a affaire à des chauffeurs de taxi. On nous a déjà fait le coup avec les VSL. Maintenant, on nous fait le coup avec les VTC. Qu'est-ce qui va nous rester? D'autant qu'en plus, on augmente le temps de travail dans les entreprises. Et chacun sait dans la profession que quand on rajoute des horaires, on rajoute des taxis. Maintenant, on rajoute des VTC. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester pour le taxi? Moi, c'est une question que je pose. Parce qu'avec une logique comme ça, à une certaine époque, je suis peut-être un vieux ringard, mais enfin, quand même, c'est une logique qui s'est appliquée. Les deux tiers, avant la régulation du taxi, entre guillemets, numerus clausus, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on dit, mais enfin bon, eh bien, les deux tiers des chauffeurs de taxi artisans avaient fait faillite. Moi, je veux quand même poser des questions, d'autant qu'on pose comme postulat qu'on ne reviendra pas sur l'affaire des VTC. Alors, les mototaxis, les VTC, les VSL et tout ça, qu'est-ce qui reste pour le taxi? Voilà,
c'est tout ce que je veux dire. Merci pour cette intervention. On a déjà, je pense, répondu assez largement, mais... monsieur...
Oui, je voulais savoir, nous les taxis, on a soumis à une assurance tout risque de transport, bon, bah, qui épargne nous, et puis bah, le client, bien sûr, en cas d'accident, le client est protégé. J'aimerais savoir de quelle façon vos clients sont protégés.
Alors, c'est le même problème que la crédibilité. Bon, mon voisin a mis en doute tout à l'heure ma position. Pour être VTC, vous devez, en tant que transporteur, avoir une assurance transport de personnes à titre onéreux. Moi, personnellement, par véhicule, ça me coûte 2000 euros par an. Et la formation des chauffeurs, nous, on n'est pas des escrocs. Nous aussi, nos casiers judiciaires sont vierges, comme les vôtres, parce que sinon, on ne pourrait pas exercer.
Personne m'a dit que j'étais un escroc, monsieur Rousseau.
Hein, non, mais sur les forums des taxis, il y a beaucoup de messages qui tendent à me faire passer pour un escroc, à dire que les chauffeurs de VTC ne travaillent que sur racolage, qu'ils sont avec des casiers judiciaires. À un moment donné, il faut arrêter. Et si on était des escrocs, je ne serais pas parmi vous, je serais en prison.
Alors, une autre question. Ah, attendez, chacun peut s'exprimer. Monsieur, très, très rapidement.
C'est juste une remarque en forme de conclusion.
On n'entend rien.
Voilà, c'est juste assez meilleur. Juste une remarque en forme de conclusion. En fait, je crois qu'on a une charnière. Et que, effectivement, une augmentation nette, sensible du nombre de VTC va influer énormément sur les marchés. Bon, ça s'est déjà produit en province, et là, ça arrive davantage sur les grandes villes. Il y a une charnière qui est tout simplement les applis sur smartphone. Ce sont les applis sur smartphone qui changent tout, qui changent la donne. Et donc là, il s'agit simplement de la remise en question du service taxi, du service public taxi, qui est en jeu. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'en fait, à terme, on sortira de la réglementation, on va en sortir obligatoirement, puisque soit on chasse la concurrence déloyale, on la chasse effectivement et efficacement, soit on met tout le monde au même plan, et donc ça sera libre tarif, ça sera zone complètement déserte, hein, non servie pour la clientèle, et ça sera tout le reste. Donc ça veut dire tout simplement que c'est la mise en question de l'existence du service taxi à terme. Point. Hein, smartphone. Donc une petite recette quand même pour les taxis. Hein, là je parle pas au VTC, je parle au taxi. Je crois que la réponse c'est d'une part un peu plus de nettoyage, de surveillance dans les taxis eux-mêmes, à l'intérieur, l'ennemi est aussi à l'intérieur, donc bien s'accomplir de ces tâches. Et deuxièmement, très important aussi, limiter le nombre de VTC flotte avec une même signalétique. C'est-à-dire qu'en fait, pas dépasser une trentaine, 25, 30 taxis VTC, voiture de transport, de même signalétique. Parce qu'après, à 500, c'est le service public des taxis qui disparaît. Merci.
Monsieur Lévi-Ration, sur la problématique des applis iPhone, etc., vous avez des choses... Monsieur Wilder.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les applis sont des vrais dangers si elles ne sont pas contrôlées. On va revenir toujours sur la même, hein, c'est Uber où c'est tout et n'importe quoi qui se passe, mais il y a d'autres applis aujourd'hui où il y a un mélange de taxi et de VTC quand même dessus. Mmh. C'est-à-dire que la personne, lui, cherche juste à gagner de l'argent, il regarde pas si les véhicules qui vont être commandés sont des VTC ou des taxis. Il prend tout le monde sur ses applis. Donc il faut absolument qu'il y ait une réglementation sur les applications, comme il en existe pour les centraux qui relativement, je dis bien relativement, respectent la réglementation.
Merci. Une question à ma gauche.
Oui, bonjour. Artisan Taxi dans le 93, Noisy-le-Grand. Donc ma question, c'est pour les fédérations. Donc nous représentons ceux qui défendent notre profession auprès des pouvoirs publics. Donc cette fuite qu'on connaît aujourd'hui vers le VTC, donc que M. Viacab il a invoqué, donc un pourcentage de nos collègues qui quittent la profession pour aller chez les VTC. N'est-ce pas à cause un peu du mal qu'on a à nous faire entendre auprès des ministères? N'avons pas nous un peu de mal à faire entendre et à faire valoir nos revendications auprès de l'État? Voilà, donc ma question est tout simplement, allons-nous pouvoir mettre un terme à cette fuite en faisant valoir nos revendications?
Vous voyez bien qu'au jour d'aujourd'hui, la profession tout entière fait face. Donc, c'est peut-être historique. Nous vivons peut-être des moments historiques, nous ne savons pas. Toujours est-il que vous parlez des taxis qui s'en vont vers les VTC. Moi, j'appelle ça de l'opportunisme. C'est tout. C'est pas autre chose. C'est pas parce qu'ils sont désespérés du taxi qu'ils veulent aller dans le VTC, c'est de l'opportunisme. Bon, comme toute profession, on a nos brebis galeuses, malheureusement. Bon, pour contrecarrer ça, le principe est simple, hein, c'est que dans chaque contrat de vente qui sera signé concernant une cessation, donc d'autorisation de stationnement de taxi, qu'il soit inclus une clause de non-concurrence, de réinstallation sous une autre forme de transport de personnes. Voilà, et puis ça résoudra tous les problèmes. Et là, on verra peut-être que les opportunismes vont se calmer un peu.
Merci. Monsieur Richard,
je voudrais ajouter quelque chose. À partir du moment où il n'y aura plus d'équivalence et qu'il y aura obligatoirement un examen, il n'y aura plus de basculement des taxis vers les VTC.
Donc, une dernière question à la droite, je suis désolé, mais j'ai déjà dépassé l'horaire qui nous était imparti. Donc, monsieur.
Oui, c'est plutôt une remarque, une piste de réflexion qui me paraît très importante pour la profession des chauffeurs de taxi. Je me présente, je suis Pierre Perrard, je suis éditeur de solutions d'application smartphone pour les taxis. Je précise bien pour les taxis, uniquement les taxis, puisque nous faisons très attention au fait que toute personne qui s'inscrit à notre service dispose d'une carte professionnelle pour pouvoir bénéficier de la mise en relation avec le client. Vous aviez évoqué tout à l'heure, Monsieur Wilder, le fait qu'effectivement, à New York, la société Uber a été condamnée, et plus exactement a dû retirer son application du marché. Je voudrais apporter une petite précision, si vous le permettez. La société Uber a dû retirer les 168 iPhones qu'ils avaient prêtés, tenez-vous bien, à des chauffeurs de taxi new-yorkais, de Yellow Cab, au motif que les prix qui étaient pratiqués, effectivement, étaient des prix forfaitaires, contraires à la règlement des taxis de la TLC, la Taxi and Limousine Commission de New York, puisque les gens payaient de smartphone à smartphone dans les smartphones des chauffeurs. Ce qui veut dire que la tutelle, la TLC, a refusé le système tout simplement parce qu'il n'y avait plus de capacité de contrôler le prix. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les taxis new-yorkais ne vont pas utiliser des applications de smartphone puisqu'il y a un appel d'offres qui a été lancé par la mairie de New York. Et là, des sociétés qui vont proposer des services de mise en relation de clients avec des chauffeurs de taxi vont le faire dans le cadre strict de la réglementation des taxis de New York. C'était, je pense, important d'apporter cette précision. Pour revenir à ce que disait M. Rousseau, effectivement, aujourd'hui, il y a un gros problème. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez tous les 15 jours quelqu'un qui sort dans un garage une application smartphone qui va mettre en relation des clients. Avec qui? Avec des gens qui ne sont pas contrôlés. Ça peut être avec la dame du coin. Ça va s'appeler covoiturage.fr et elle va proposer simplement un tarif pour proposer quelqu'un sur un tarif interurbain, non pas forcément interurbain, même dans un tarif intra-urbain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une concurrence déloyale du taxi. Donc j'attire l'attention de la profession sur le fait qu'il faut ensemble, nous ingénieurs qui développons les applications smartphones, vous professionnels du taxi, à réfléchir, à faire très attention à ce qui se passe dans l'univers aujourd'hui de l'informatique et des télécommunications, parce qu'on est en train de manger dans votre gamelle. Hein, ça se passe avec les VTC, ça se passe avec les taxis clandestins. J'ai refusé des chauffeurs qui venaient m'appeler pour s'inscrire à mon application. Quand je leur demandais leur CDC, ils me disaient « j'en ai pas, j'en ai rien à faire, donnez-moi l'application ». J'ai dit « non monsieur, moi, il faut que je fasse une déclaration à la direction des transports et de la protection du public ». Il y a aussi une question de sécurité publique. Vous avez aujourd'hui des gens qui vont racoler électroniquement, pas physiquement, sur place, mais électroniquement, des clients, d'accord, et qui ne sont ni taxi, qui ne sont ni VTC, et qui sont des clandestins. Il faut faire très attention à ça. Et c'est ce que disait votre collègue tout à l'heure. Finalement, il y a un laminage de la qualité de la profession par le fait que les nouvelles technologies, c'est une vraie blitzkrieg qui enfonce la ligne Maginot réglementaire. Parce que faire des règlements, faire des lois, c'est bien, les appliquer, c'est mieux. Mais quand vous mettez une application sur Internet, on peut la télécharger partout.
Merci pour ces précisions intéressantes. Une dernière réaction, ensuite je conclue, je suis désolé, pardon.
Non, je vais juste dire à monsieur que je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Les applis, c'est très bien si elles sont bien faites et elles respectent la réglementation. Sinon, c'est catastrophique.
Parfait. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, j'en suis sûr. Je vous remercie tous de votre présence. Je remercie bien évidemment tous les participants à cette conférence. Et à très bientôt sur une prochaine édition du Salon du Taxi. Oui.